se sentir juif, chaque personne aurait une réponse différente et je pense que c'est ça aussi qui est très important.
Par les fêtes, par les rassemblements familiaux.
Une histoire juive.
Comment la France a-t-elle été façonnée par la rencontre de cultures minoritaires, dont les communautés juives?
Comment se rappeler de ce qui a été silencé?
C'est quand même dans mon sang parce que mon père est juif.
Pratiquant, traditionnaliste.
Le judaïsme, c'est une religion qui est peu connue.
Bienvenue pour cette troisième émission d'une série de 5 conversations radiophoniques proposées par le Musée Dauphinois, musée du département de l'Isère et enregistrée par Radio Campus Grenoble. Cette série de rencontres est proposée dans le cadre de l'exposition du Musée Dauphinois, inaugurée le 27 novembre 2025. Une histoire juive, 2000 ans d'histoire entre Rhône et Alpes. Comme à son habitude, le musée propose de traverser la diversité culturelle des populations à travers les siècles. Ici, la présence juive, particulièrement méconnue et pourtant très ancienne. Ce soir, notre conversation radiophonique s'articule autour d'une rencontre pour s'immerger dans les représentations de la culture juive dans la bande dessinée. Qui mieux placé que vous, Anne-Hélène Houg, pour nous parler de cette approche qui nous permet d'appréhender, vous l'entendrez, la grande d'histoire de la bande dessinée. Bonsoir à vous, Anne-Hélène Houg.
Bonsoir Clémentine.
Vous êtes directrice conservatrice du musée de la bande dessinée d'Angoulême. Après 20 années en tant que conservatrice au musée d'art et d'histoire du judaïsme, le MAJ, et c'est dans ce cadre que vous avez notamment organisé un paquet d'expositions autour de la bande dessinée et des mémoires juives, et notamment celle-ci qui a fait date, qui a marqué, de Superman au chat du rabbin en 2007. Et puis entre-temps, il y a eu des études d'histoire à Grenoble, à l'école des hautes études en sciences sociales, et également des études de langue et culture juive à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, et puis des années de travail en Allemagne, notamment pour des institutions publiques qui conservent des collections juives. Dans cette émission, nous allons parler autobiographie, transmission, autrices américaines, de la manière de tisser un récit mémoriel et bien sûr de coups de crayon. Mais surtout au cœur de cette conversation, pouvoir comprendre comment se construit un récit de l'histoire juive à travers la BD au fil du temps. On parlera donc bien moins de la bande dessinée dans le judaïsme que de la place des juifs dans le 9e art. Et donc je le rappelle, public, n'hésitez pas à prendre le micro dans un petit moment. Pour ceux qui ont parcouru l'exposition, elle débute par une fresque sous forme de dessin qui retrace 2000 ans, rien que ça, hein, d'histoire, de présence juive entre Rhône et Alpes. Anne-Hélène Houg, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez eu le temps de faire un petit tour de l'exposition?
Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé cette exposition. Je la trouve intelligente, je la trouve très bien dosée, parce qu'une exposition aujourd'hui, c'est une gageure, parce qu'on se trouve face à des enfants et à des jeunes qui n'ont pas nécessairement envie de se plonger sur des thématiques spécifiques ou même de passer beaucoup de temps sur un document. Donc il faut arriver à les intéresser. Et puis il faut surtout, aujourd'hui, le public n'aime plus lire, c'est très compliqué. Donc là, je trouve qu'il y a non seulement des objets, des documents, même reproduits, qui sont extrêmement intéressants. Je trouve que le découpage de l'expo et le rythme de l'expo est bien fait. Je trouve que les textes sont bien quantifié, c'est-à-dire qu'on a, je l'ai dit, hein, c'est vraiment compliqué de faire des textes que, digestes, on va dire, hein, pour le public aujourd'hui, parce que les gens n'ont plus de patience pour ça. Et donc, avant tout, le but d'une exposition, c'est de faire une médiation. Hein, le premier moyen de médiation, c'est l'exposition elle-même. Donc, emmener le public vers un sujet, c'est d'abord lui proposer quelque chose qu'il ne connaît pas, en même temps lui proposer quelque chose qu'il connaît. Et c'est avec cette combinaison-là qu'on peut tricoter un fil intéressant et ouvrir en fait des fenêtres de réflexion, mais des fenêtres même à l'imaginaire, à l'imagination, à la création, et puis surtout de connaissances. Donc, attiser la curiosité. Hein. Et je pense que ça, cette expo le fait très bien. Moi, j'ai été surprise hein, de savoir qu'il y avait cette expo. J'ai été ravie. Et je dois dire que je complimente toutes les personnes, le commissaire de l'exposition, Monsieur Philippot, et puis toutes les personnes qui y ont contribué, et vous Clémentine aussi, parce qu'il fallait avoir brassé un matériau énorme, à la fois très difficile à documenter, puisqu'on part de l'Antiquité tardive, et arriver à aujourd'hui, donc en passant par la Shoah, en passant par la question de l'identité, l'antisémitisme. Bon, donc vous brassez en fait énormément de sujets sur un espace assez restreint, Et il faut choisir les pièces. Vous avez de très, très belles pièces. Vraiment, félicitations pour ce que vous... J'imagine que ça n'a pas toujours été facile à obtenir. Mais bravo. Voilà, je trouve que c'est très bien.
Et donc avec vous, ce soir, on fait un petit pas de côté sur un angle qui vous tient particulièrement à cœur, la bande dessinée. Lorsqu'on parle des représentations des cultures juives dans la BD, il faut absolument partir aux États-Unis pour en parler. Pourquoi ce détour ?
Alors d'abord, je ne suis plus directrice du musée de la bande dessinée depuis 2 ans. Je fais d'autres choses. Je travaille sur la maison du dessin de presse à Paris, qui ouvrira en 2027. Je ne veux plus être directrice de rien du tout. Je me contente d'écrire et de faire des expos. Et en 2002, avec Laurence Sigal, nous avions fait 2001-2002 une exposition qui s'appelait Le Juif errant, une histoire de témoin du temps. Et là, j'avais beaucoup travaillé sur l'imagerie populaire. Et en travaillant, en tricotant, en fait, les pensées, les réflexions sur ce qu'était l'imagerie populaire concernant le Juif errant et tous les retournements et les réinvestissements de ce personnage qui est né au Moyen-Âge, dans la littérature médiévale, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui était repris du Wandering Jew, dans la littérature anglo-saxonne. Ça existait aussi beaucoup dans la littérature française. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature anglo-saxonne, il y a eu des auteurs de bande dessinée qui ont en fait décrit des personnages, notamment Ben Catchor. Et donc, travaillant, voulant faire une exposition sur un auteur génial qui vit encore aujourd'hui, qui produit beaucoup, qui a fait un livre qui s'appelle Le Juif de New York, eh bien, avec Didier Passamonique, auquel j'ai demandé ses conseils, dont j'ai demandé les conseils et l'aide, on a avancé petit à petit et élaboré un sujet qui a terminé, qui s'est fait en l'espace de 9 mois, sur la bande dessinée. Et je suis allée aux États-Unis chercher des pièces. J'ai rencontré des auteurs, j'ai fouillé dans leur fond, dans leur dessin. Et je dois dire qu'il y a des chercheurs aux États-Unis. C'était beaucoup plus recherché aux États-Unis qu'en France. Et c'est là que je suis tombée sur des bandes dessinées en mettant à éplucher les fonds des bibliothèques américaines, de libraries, des bibliothèques d'études et publiques, sur les journaux, puisque c'est un phénomène majeur aux États-Unis, la bande dessinée dans les journaux, les comics. Et dès 1910, en fait, pratiquement, on voit apparaître des personnages dans la presse yiddish, par exemple, mais qui ne vont pas durer longtemps. C'est Zuni Maut, par exemple, qui fait des personnages qui s'inspirent du journal qui s'appelait Punch, qui était un journal satirique dessiné. Et en 1914, apparaît un personnage qui s'appelle A.B. the Agent, qui va, en fait, être le prototype, vraiment, du juif immigré avec un gros accent russe, yiddish, anglais, qui se lance dans les affaires et qui veut réussir et qui veut s'intégrer, s'intéresser à la politique. Et ça, c'était vraiment très caractéristique de ce que l'on voit se faire chez tous les auteurs de bande dessinée juive de l'époque, c'est-à-dire je parle des années de 1910 à 1930, même 35. Mid Gross, par exemple, Will Eisner était trop jeune encore, mais on en a Frank Oppenheimer et d'autres, qui... Mild Gross avec Nice Baby, qui décrivent la vie des juifs immigrés. Or, l'Amérique vit de cette histoire des juifs immigrés. New York, qui est un centre de presse énorme, qui va distribuer ses bandes dessinées dans tout le territoire américain, New York fait son histoire, construit son histoire sur l'histoire de l'immigration et sur la mémoire de l'immigration, mais très très tôt. Comment les parents vivent, où est-ce qu'ils vivent, les gens pauvres, les différentes strates de la société juive et des sociétés immigrées, russes, italiennes, polonaises, etc. Mais la bande dessinée juive va s'attacher surtout à montrer ce fossé entre les générations des jeunes et des parents et des jeunes qui vont aller à l'école et vouloir devenir américains. Et donc on a là, Will Eisner le montre très bien, mais on a d'autres exemples, on a là finalement qu'est-ce que c'est que d'être un immigré dans une ville qui est une ville qui bat d'une énergie absolument invraisemblable à l'époque, y compris même pendant la crise de 1929. et beaucoup d'auteurs de bande dessinée vont commencer à construire quelque chose qui sera lu par les jeunes, parce que les jeunes enfants de deuxième génération lisent la presse, ils vendent les journaux dans les rues, et ils lisent la presse, ils lisent les comics dans les rues, comme ça, même quand ils n'ont pas d'argent, ils peuvent lire les comics. Et on a quantité de photos qui nous montrent ces gamins, qui, ce qu'on appelait le Jewish labor, les gens se critiquaient beaucoup ça. Et donc on a autour de la bande dessinée une génération qui se construit sur l'idée de la narration de soi, de la narration des autres, de la comédie de mœurs, de la comédie, mais toujours avec les questions qui sont typiques dans la littérature anglo-saxonne, l'intégration sociale, les parvenus, les parias, les nouveaux, etc. Et donc c'est avec cette conscience-là et ce refus d'être les fils de leurs parents, si vous voulez, d'être uniquement les récipiendaires de la tradition juive d'Europe orientale, qu'il va y avoir une conscience judéo-américaine qui va émerger, une image de soi qui va émerger, une façon d'agir, une façon de se comporter politiquement. Et on retrouve tout dans la bande dessinée.
Vous avez fait référence deux fois à Will Eisner. C'est une personne centrale aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous le remettre dans le contexte? Il arrive donc un petit peu après.
Alors, il est né en 1917, année fatidique, bien sûr, puisque c'est l'année de l'entrée en guerre des Américains dans le conflit mondial. Et il vient d'une famille d'immigrés hongrois. Sa mère est une femme au foyer et son père était hongrois-autrichien. Il faisait des décors de théâtre. Il voulait être peintre pour le théâtre. Il rêvait d'être un peintre, en fait, d'être un artiste. En fait, il faisait des fonds de décors pour le théâtre. Bon. Et Will Eisner va d'abord monter son propre studio, un tout nouveau studio de comic shop en quelque sorte, où il va inviter d'autres auteurs, des jeunes comme lui, à venir. Et c'est dans ce studio qu'il a fondé avec quelqu'un qui s'appelait Eagers que vont venir des gens comme Kirby, comme Joe Kubert, comme Bob Kane, etc., etc. On va avoir Lou Fine et on va avoir énormément de créateurs qui vont émergé dans les années 60, 50-60, qui vont faire leur griffe, en quelque sorte, ou leur pinceau dans les studios de Will Eisner. Il a été... c'était quelqu'un qui voyait ça un peu en collectif. Hein. Il a fait un héros qui s'appelait le Spirit, qui n'avait pas grand-chose à voir, mais enfin, quand même, en 1940, il fait la rencontre du Spirit et d'Hitler dans un coin de Manhattan. Et le Spirit essaye de persuader Hitler de renoncer et tout. Et puis finalement, Hitler dit oui, ok, je renonce. Puis il va être assassiné et remplacé par un double. Donc ça ne va pas. Ça, c'est une première façon de se situer aussi, pas seulement dans une tradition familiale, il n'y est pas encore, mais dans la politique de l'époque. Et émerge dans les comic books par des jeunes, le Superman en 1938, par Joe Simon et Spiel, et ça y est, je trébuche sur les mots. Bon, ça me reviendra. Simon. Et on a Siegel et Schuster, oui. Et on a là deux jeunes lycéens de Cleveland qui rêvent de faire un super-héros mythique comme Siegfried ou autre, comme Moïse, enfin, et qui vont faire comme le golem, et qui vont faire un personnage qui s'appelle Superman, qui va être... au début refusé par beaucoup, donc par Will Eisner aussi, qui ne va pas le publier, et qui va faire un ravage dès sa première parution. Et Dieu sait, si vous regardez les premières planches, ce n'est pas joli, joli. Toutes les encres étaient, les couleurs étaient baveuses, enfin bon, le dessin n'est pas extraordinaire, mais l'histoire est extraordinaire, tous les gamins rêvent de ça. Et donc ça va être un truc de fou, tout le monde va se jeter sur ce livre. Et d'ailleurs, il va y avoir très vite des films d'animation qui seront faits, des dessins animés qui seront faits. Et puis du coup, vous avez en 1940 l'émergence d'un Captain America. Vous allez avoir petit à petit toute une galerie de super-héros qui va être créée en fait essentiellement par des dessinateurs juifs. Pourquoi ? Parce que les enjeux de la Seconde Guerre mondiale, la persécution des Juifs en Europe, fait arriver de nombreuses familles, enfin crée une tension dans le rapport familial entre l'Est et l'Ouest, entre les États-Unis et l'Europe centrale, et que aussi des gens comme Will Eisner ou autres voient arriver leurs familles, des enfants et tout, qui sont réfugiés, et on se trouve des fois dans des appartements d'une toute petite taille, hein, le Lower East Side ou le Brooklyn, tout ça, c'était vraiment très, très, très. Les appartements étaient des ce qu'on appelait les tenements, et qui étaient des HLM, en quelque sorte, des logements d'ouvriers, et où les gens travaillaient, vivaient. On pouvait avoir jusqu'à 15-20 personnes dans la journée. Et là, vous avez des chambres qui sont pleines à ras-bord de réfugiés. Voilà. Et ça, ça va évidemment créer des souvenirs et sur la façon aussi de voir les choses.
Et puis on arrive à la Seconde Guerre mondiale avec un auteur dont il est très important de parler, Art Spiegelman, ça parle plus peut-être à nos oreilles françaises, sur la question de l'engagement, des droits civiques. Donc je rappelle rapidement que c'est un auteur américain qui a été très connu, qui l'est toujours, hein, pour son célèbre Maus, si c'est comme ça qu'on prononce, entre 1986-1991, enfin qui a été en tout cas publié à cette époque. Et c'est une œuvre dans laquelle il raconte le génocide des juifs par les nazis à travers le témoignage de son père, les premiers étant représentés par des souris et les seconds par des chats. Cet ouvrage, vous m'avez dit, a rendu la BD fréquentable. Pourquoi ? Et est-ce que finalement, le prix Pulitzer qu'il a reçu en 1992, pourquoi ça a sorti la BD du registre de la distraction ?
Parce que la BD n'était pas quelque chose de considéré, même si les gens aimaient beaucoup la bande dessinée, la lisaient avec joie dans les journaux ou achetaient des comic books, c'était quand même considéré comme intellectuellement d'un niveau inférieur à lire la littérature courante. Ensuite, ce n'était pas un travail d'artiste qui était considéré. Les artistes de bande dessinée, même si c'était des grands dessinateurs, ils avaient tous rêvé d'être peintres et ils adoraient dessiner de la BD, mais enfin, le rendement était terrible, la paie n'était pas extraordinaire, elle était mieux que dans d'autres secteurs. Mais en fait, ils auraient tous voulu être des peintres ou être des enfin voilà, avoir un peu d'autres parcours. Et à un moment, ils ont compris, ils gagnaient de plus en plus d'argent, donc finalement, ils étaient contents aussi. Puis ils ont eu de plus en plus de fans. Mais pour en revenir à la question de Art Spiegelman, la question de la Shoah dans la bande dessinée. Il faut dire que la lutte pour les droits civiques, elle commence aussi avec quelqu'un comme Harvey Kurtzman, qui a fondé l'hebdomadaire MAD, qui est resté quelque chose d'absolument important. Kurtzman reste sur l'identité juive américaine. Avec Spiegelman, on a vraiment un retour vers l'histoire familiale. Mais Spiegelman commence à publier Il n'a jamais pensé qu'il ferait un truc sur l'histoire de la Shoah complète. C'est qu'au fur et à mesure... En fait, sa mère se suicide. Lui, il devient à moitié marteau, il va en HP, enfin bon. Et puis, du coup, il va faire une première petite bande dessinée sur son état après le suicide de sa mère. Et il la publie dans ce qu'il faisait. C'était un gars de l'underground américain, c'est-à-dire qu'il n'était pas connu, il faisait ça à moindre frais, etc. Il publie ça dans Fanny Aminol, qu'il faisait avec d'autres amis, Robert Crumb ou Griffith. Donc Fanny Aminol, on voit apparaître en 71-72, vous voyez, jusqu'à 95, où il y a la pleine publication, où ça prend du temps. Et il va commencer donc un premier récit. Il fera ensuite un second récit. Et puis, il va lancer en 80-81 une revue qui s'appelle Raw, R-A-W, cru, dur. Et à l'intérieur de cette revue, il y aura dans les 8 premiers numéros, qui sont magnifiques, qui sont des grands formats, j'expliquerai des choses par rapport à la France après là-dessus. Il va avoir une petite brochure, un petit livret en fait, qui est chaque fois un chapitre du récit de Maus. Et puis à la fin, il va rassembler les chapitres, ce sera publié. Et le prix Pulitzer vient du fait que Maus a été quelque chose qui a d'abord, il y a eu une rencontre entre le besoin de mémoire de la Shoah, parce que les générations survivantes de la Shoah n'arrivait pas à parler. Donc, ça a mis un certain temps. En plus, les Américains n'avaient pas connu, les Juifs américains n'avaient pas, pour certains, connu, pour beaucoup, je veux dire, n'avaient pas connu la Shoah. Donc, quand la rencontre avec les rescapés rendait les choses un peu compliquées. Et donc, c'est là, la troisième génération, c'est Kurtzman qui va s'attaquer à ça. Et c'est Kriegstein aussi dans Master Race. Et puis ensuite vient ce que je disais, Art Spiegelman, qui lui va directement sur un récit, qui est le récit de son père, de la vie de son père et du coup de sa mère, puisque tous les deux étaient des rescapés. Et le fait que ce traumatisme de la déportation et des camps a rendu sa mère complètement dépressive, outre le fait qu'elle ne s'entendait pas avec son mari. Mais au départ, Spiegelman règle des comptes avec son père. C'est un conflit générationnel avant tout. Tout d'abord, c'est ça. Et puis, à travers les récits de son père, puisqu'il faut qu'ils arrivent à communiquer, il faut qu'ils arrivent à parler, son père lui raconte, parce que le père a besoin de se justifier quelque part par rapport à l'histoire de la mère, du suicide de la mère. Et donc, il va lui raconter. La métaphore des rats et des chats, c'est une vieille histoire. Ça se trouve en Iran, ça se trouve en Russie, dans le folklore, dans les contes et mythes de l'époque, dans les contes de l'époque. Et il y a quelqu'un qui a fait ça avant lui et qui s'appelle Marcel Gottlieb. Marcel Gottlieb, en 68, publie une petite histoire qui s'appelle « Manuscrit pour les générations futures ». Il va publier aussi la chanson « Aigre-douce ». Et « Manuscrit pour les générations futures », apparemment, c'est le déménagement vers les Halles de Rungis. Donc, les rats n'ont plus rien à manger. On a balancé dans le trou des Halles, au centre de Paris, des tonnes et des tonnes de raticides et tout ça. Donc, ça fait penser, bien sûr, à l'extermination. Et puis, on voit partir tous ces rats en cohorte, en colonne, vers Rungis, où là, ils vont mourir, parce que tout est tellement hygiénique, aseptisé, métal et compagnie, qu'ils n'arrivent pas à survivre. Et en fait, ces personnages, donc ces rats, c'est bien sûr l'histoire d'une génération. Ça raconte aussi le ghetto de Varsovie, et ça raconte aussi l'extermination des Juifs. Et il fait ça avec des personnages de souris et c'est surtout les souris qu'on voit. Hein. Donc, quand j'ai fait l'expo avec Marcel Gottlieb en 2014, je lui disais « Mais c'est ça ton histoire, c'est ce que tu as fait. » Et il me disait « Mais non, la tour Eiffel n'a pas d'étoile juive, c'est toi et Didier, vous inventez des choses. Et puis la chanson Aigre douce, c'est simplement mes souvenirs d'enfants cachés. » Enfin bon. Puis en fait, en creusant, en travaillant avec lui, ben, remonte toute une histoire où il a très peu d'œuvres, mais il a quelques œuvres où on voit très clairement ce qui a été raconté. La chanson Aigre douce, c'est quand il est dans un délaissement absolu, en tant qu'enfant caché, occupé avec une chèvre qu'il battait d'ailleurs, qu'il traitait très mal, il l'a dit lui-même. Et il était désespéré, donc il chantait à sa chèvre une comptine parce qu'il était tout seul. Et puis, le manuscrit pour les générations futures, il fait ça, il est déjà un dessinateur de bande dessinée connu, qui travaille à Pilote, en 68. Et puis, il fait une toile sur sa mère. Il fait quelques trucs qui évoquent la figure de son père. Et donc, à travers ça et à travers le livre qu'il a publié, « J'existe, je me suis rencontrée », je crois. Vous savez, j'ai la mémoire, on vieillit, hein, j'ai la mémoire qui flanche des fois. Il raconte, en fait, cette histoire personnelle. C'est un livre magnifique à lire, hein, que j'invite vraiment à lire. « J'existe, je me suis rencontrée », l'histoire de Marcel Gottlieb et de son moment, de son père, enfin de la déportation de son père et de sa vie d'enfant caché. Et comment dirais-je ? Bon, Spiegelman connaissait ça. Donc il reprend ça, ça ne vient pas comme ça, ce n'est pas lui qui y a pensé tout seul. Hein. Il suivait de près tout ce qui se publiait en France, et les formats de Row venaient de l'édition Futuropolis, Florence Sestac et compagnie, et son époux, qui est le designer de Canal+. Et donc, il y avait quelque chose qui était là en France, mais qui n'apparaissait pas en France comme une mémoire. Et en fait, c'est au moment des grands procès qu'on voit apparaître en France la question de du traitement de la mémoire concernant la Shoah, la déportation, le rôle des Français de la police française, de Vichy, et des collaborations, etc. Donc, c'est pour dire que, tandis que les Américains vont rester très centrés sur une histoire américaine qui aperçoit de loin l'histoire de la Shoah vécue par soit fictive, soit réelle, les Français vont avoir beaucoup de mal à aborder le sujet parce qu'en France, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de parler de ça. Avance, avec le moment de 68, en fait, avance la figure du anti-héros que Spiegelman incarne d'ailleurs dans ses bandes dessinées, mais qu'on va voir arriver avec Gottlieb aussi, puisque c'est le grand déprimé, etc. Et en fait, ils sont très peu à être lus sur ce sujet en France dans les années 60-70. Je le dis, c'est les procès qui vont relancer cette question. C'est le déblocage en fait des enfants revenus de déportation qui parlent de leurs parents, qui vont faire remonter ça. Et puis vient la grande phase de la redécouverte où aux États-Unis, et pas en France encore, s'élabore quantité d'ouvrages sur la mémoire familiale à la suite justement de Maus.
Oui, parce que j'allais dire en filigrane de tout ce que vous racontez, que ce soit aux États-Unis ou la mouvance qui arrive en France, même si elle arrive tard, au cœur finalement de ce travail de bande dessinée existe le récit autobiographique. Finalement, c'est en passant par sa propre histoire qu'on va pouvoir écrire le récit mémoriel. Et donc, il y a toute cette, génération, ou plus que plusieurs générations de femmes aussi aux États-Unis qui vont apporter voilà. Ça.
Alors, ça, c'est la singularité américaine. C'est qu'on va avoir les Jewish princesses, les princesses juives du Long Island et des familles juives. Bon, c'était le nom qu'elles se donnaient et qu'on leur donnait en rigolant. Hein. Aline Kominsky, Diana Newman, Trina Robbins, Sharon Rudell, qui vont, être des dessinatrices qui décident de représenter le rôle de la femme, la position de la femme. Et leur propre histoire de filles juives dans des familles juives assez conservatives, assez guindées, etc. Et elles vont raconter ce qu'est l'explosion de 68, c'est-à-dire leur vie sexuelle. Enfin, il n'y a rien qui est caché. Hein. Le Didi Glitz, on sait tout sur elle. Ces filles que les mères veulent marier, donc elles vont toutes se marier, hein, d'ailleurs, d'abord. Puis elles vont divorcer, puis après ça va être la grande vie. Donc elles vont vivre avec des gens comme Bill Griffiths, comme Robert Crumb, et c'est là que se déclenche donc cette vision des femmes autrices américaines qui vont oser. C'est pas qu'il y avait pas d'autrices américaines avant, c'est qu'en général elles étaient coloristes parce qu'on leur laissait très peu de place. Il y a eu des Américaines, des femmes qui ont fait des BD connues, mais très peu. Et là, dans ce mouvement-là, pour exister, pour raconter leur histoire familiale, les tensions générationnelles, l'émancipation sexuelle, l'émancipation des mœurs, le rapport au travail, le rapport à la société américaine et à la politique américaine, ces filles vont se lancer et elles vont faire leurs propres journaux, ce qu'on appelait comics, qui sont des journaux de l'underground. Mais en fait, en France, on s'en fout, les gens s'en foutent. Ils ne les suivent pas. On continue à regarder que les hommes. Il y a un très gros machisme hein, dans le milieu de la BD, je vous le confirme. Si jamais vous le savez déjà, je vous le dis. C'est très compliqué, même encore aujourd'hui, pour les femmes, de se faire une place parce qu'on a souvent l'impression d'être tolérées comme ça. Elles ont souvent l'impression... Mais il y a dans cette histoire de mémoire des autrices qui, à partir des années 80-90, vont dessiner leurs histoires. On pense à Myriam Katyn qui va produire le livre « Seul contre tous », qui raconte, et c'est le premier livre qui le raconte, l'histoire des Juifs après la Shoah en Hongrie. Donc ça, c'est très important parce que c'est dans les pays de l'Est. Il n'y a aucun sujet d'aborder sur les Juifs dans l'antisémitisme dans les pays de l'Est. Elle va raconter ça. Elle va raconter d'abord la Shoah, le fait qu'elle a survécu cachée avec sa mère. Je vous laisserai découvrir le livre. Et puis après, elle va raconter plus spécifiquement la révolution de 56 en Hongrie. où tout de suite les gens courants crient « Allons chercher les Juifs !» Voilà, c'est-à-dire que la libération, c'est se libérer des Juifs trop communistes, des Juifs trop puissants. C'est-à-dire, il y a vraiment quelque chose, et donc elle « Let's go and get the Jews hein. !» Et ça, c'est vraiment quelque chose qui l'a frappée. Donc elle est partie en Israël, et là, au moment du procès de Eichmann, elle a fait également une bande dessinée pour se rappeler de ce qu'elle faisait au moment du procès de Eichmann quand elle écoute les comptes rendus à la radio. Et puis, elle va continuer comme ça. Elle a fait des choses magnifiques. Elle a fait une petite nouvelle graphique sur une page qui s'appelait « Il y a des jours comme ça », où c'est une femme qui prend sa douche le matin et qui se rappelle que sa tante a disparu avec le bébé de sa tante dans un bombardement. Donc là, on est sur... Donc, elle dit « Peut-être que dans ce monde, aujourd'hui, j'ai un cousin ». Voilà, donc c'est cette incertitude du devenir qui est décrite. Et puis, on va, passant en France, on va avoir à partir des années 90, justement débloqué en quelque sorte par Spiegelman, des auteurs qui vont commencer à produire. Mais ils produisent d'abord dans la marginalité. Ils produisent comme Johann Sfar. Johann Sfar est certainement celui qui a fait monter le plus haut l'attention sur la bande dessinée avec Le Chat du Rabbin. Il avait fait avant des choses qui étaient restées assez confidentielles, comme Le Petit Monde du Golem ou d'autres trucs comme ça, beaucoup de choses pour enfants aussi. Il avait fait Les Olives Noires, qu'il avait dessiné sur un scénario, que Emmanuel Guibert avait dessiné sur un scénario de Johann Sfar. Bon. Si on continue comme ça dans l'évolution du travail sur la mémoire, on a, concernant l'Argentine, puisque M. Philippot, vous m'avez montré des planches sur des photos de Juifs en Argentine, El Silencio de Malca, le silence de Malca de Rubén Pellejero et Jorge Zentner, et qui raconte l'histoire d'une émigration en Argentine et qui mêle, après ça devient un monde assez fantastique. Voilà, vous le connaissez. Alors, Goscinny, il n'a pas connu la guerre, il était en Argentine. Alors, en 2017, effectivement, j'ai fait une expo sur Goscinny. Il a été le juif le plus clandestin de toute l'histoire de la bande dessinée. On va dire ça comme ça. Il ne voulait pas en parler. Et il n'y avait que ça. Je disais tout à l'heure, quand on voit les répliques des Dalton, etc., il y a des choses extraordinaires. Ça fait penser à Pierre Dac. Il y a par exemple, de Goldbridge, dans les rails sur le chemin de fer qu'on établit, Lucky Luke. Dans un Lucky Luke, il y a... les gens surveillent Lucky Luke, Lucky Luke surveille les travailleurs et les vautours surveillent tout le monde. Et là, si vous voulez, vous ne pouvez pas vous empêcher de trouver ça extraordinairement juif comme façon de regarder les choses, parce que c'est Radgadia. En fait, c'est vraiment l'histoire du petit chevreau. C'est la comptine, le plus petit mangé par le plus gros, qui est mangé par un plus gros encore, etc., etc. C'est un peu les poupées, les matryoshkas. Et on a là quelque chose, il a comme ça des tas de moments où on voit bien qu'il a cet humour sec, cet humour, voilà. Puis, il était entouré que de juifs, très copain avec Harvey Kurtzman, il était entouré que de juifs aux États-Unis quand il a vécu à New York, et c'est quand il est arrivé en France, et qu'il a publié pour les éditions Dupuis, et qu'il a travaillé pour la World Press, pour faire les scénarios, qu'il est devenu de plus en plus demandé, qu'il s'est mis à travailler avec des tas de gens différents, etc. Mais en fait, en apparence, on a Astérix, on dit c'est le village gaulois, etc. Moi, je ne me prononce jamais sur des choses comme ça. Parce que, bien sûr, on peut trouver qu'il y a des tas d'images, on peut être marqué par des figures, en quelque sorte. Joe Kubert racontait des histoires où c'était les photos de ses membres de famille qui servaient à faire les portraits des gens. Bon, la documentation, aller chercher l'inspiration, la précision du trait, bon...
Justement, je vous prends au vol parce que c'est un peu un appel du pied pour aller un peu dans le dessin, pour aller travailler, réfléchir sur la matière. En quoi finalement la bande dessinée, j'aimerais bien que vous nous expliquiez la différence avec le roman graphique, rapidement, s'il y en a une, mais en quoi ça a permis de porter ce récit mémoriel, c'est-à-dire l'esthétique du dessin, le lettrage, la manière dont les petites références, finalement, en quoi ça porte, ça joue dans le message qui est diffusé.
Je suis d'avis que c'est une histoire d'édition. C'est une histoire d'éditeur. Le roman graphique... Vous avez des BD qui font aujourd'hui 300 pages, des bandes dessinées, qui ne s'appellent pas roman graphique. Un roman graphique, ce n'est pas nécessairement long. Moi, je pense plutôt qu'il existe des nouvelles graphiques et qui ne sont pas, qui sont des nouvelles qui ont été la forme première de publication, surtout en France, où on faisait quelques récits d'une page, mais des récits bouclés. Il n'y avait pas de suite. C'était des histoires complètes. Ça, Claire Bretéché en a fait beaucoup. Gottlieb en a fait énormément. Il n'y avait pas de suite. Hein. Chaque fois, Guéluron en est un exemple, etc. Guéluron est un personnage très juif. Très, très juif.
C'est-à-dire que ces auteurs passent par la métaphore toujours. Est-ce qu'il y a un trait particulier des auteurs juifs qui veulent donner une représentation ou porter encore plus loin ce que vous racontez sur le récit mémoriel? Est-ce qu'il y a quelque chose de quand on regarde ce dessin, qu'on le connaît un peu comme vous, on remarque des similitudes?
Non, il y a une très grande diversité dans le dessin. Parce qu'en fait, chacun a ses goûts, chacun a ses modèles, chacun a été formé à sa manière, certains étaient complètement autodidactes. Donc plus tard, d'autres plus tard, surtout aujourd'hui, on fait des écoles d'art ou des écoles de bande dessinée. Où, voilà, ils ont fait les Émile Cole, les Gobelins ou Lézy à Angoulême, mais ou à Saint-Luc, par exemple, en Belgique. Mais si vous voulez, chacun garde son style propre. Je vais vous trouver un autre exemple chez les Israéliens, parce que ça c'est intéressant. Il y a un collectif d'Israéliens, il y a Yirmi Pinkus, Mira Epstein, etc. Et il y a aussi Rutu Modan. Rutu Modan est celle qui se vend le plus à l'étranger de tout ce groupe, et elle est beaucoup sur la mémoire. Et son dessin est assez aplati, assez c'est magnifique hein, ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit. Et je pense qu'elle va préparer quelque chose là sur le 7 octobre, parce que j'étais avec elle en plus au moment où le 7 octobre, elle recevait le prix à Genève, le prix Töpfer. Et donc c'était quelques semaines après le 7 octobre, on était toutes les deux assez bon. Et elle m'a dit, hein, j'en parle pas encore, mais un jour j'en parlerai. Et je pense que Rutu Modan a écrit ces tensions, comme par exemple dans La propriété, ou le dernier qu'elle avait publié à l'époque, il y a 2 ans, donc, qui était très très drôle et très intelligent. Mais comment dirais-je, les styles graphiques, c'est un truc très individuel, mais ça peut être aussi du copy. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde fait du Crump ou du Kominsky. Kominsky a fait de plus en plus du Crump, puisque c'était son mari, qu'elle dessinait avec lui. C'est un peu méchant de dire ça comme ça, mais c'est la vérité.
Ça veut dire mais, quoi, faire du Crumb?
Bah, c'est-à-dire que Robert Crumb avait un style tout à fait nouveau, particulier. Et Aline Kominsky, quand elle a rencontré Crumb, elle a commencé à travailler aussi avec lui et elle a fait ses trucs et ils ont fait des récits à deux. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient dessinées par Crumb, d'autres choses qu'elle dessinait un peu comme lui. Et ça a créé une vraie école dans l'underground, enfin, dans ce qu'on appelle la bande dessinée alternative aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens deviennent difformes, exagèrent leurs traits, leur physique, etc., accentuent leurs défauts. Bon, tout ça, c'est une façon de ne pas aborder l'autobiographie ou la fiction autobiographique, de ne pas parler vraiment de soi. C'est-à-dire qu'en fait, on ne veut surtout pas que les autres puissent dire « Ah bah dis donc, tu t'es pas loupé là !» Donc on se rend grotesque. C'est une façon encore de se dissimuler. Mais bon, c'était aussi la veine comique. Les comics devaient être comiques. Donc c'était aussi ça. Et dans le récit contemporain, on a finalement des auteurs. Vous avez plusieurs veines. Par exemple, il y a toute une veine de récits sur la Bible. Souvent, c'est les Lubavitch ou les orthodoxes qui ont promu la bande dessinée pédagogique pour que les enfants lisent l'histoire religieuse, etc. Et c'est la même chose du côté de Bayer Press. Hein, c'est les mêmes histoires. Hein. Je dois dire que c'est rare qu'on trouve des beaux dessins. Enfin, qu'on soit emballé, qu'on soit touché. Ça reste très, très convenu. Ça doit fonctionner, en quelque sorte. Ça fonctionne pédagogiquement pour raconter une histoire. Et puis vous avez l'individualité, voilà, qui fait toute la différence, avec plus ou moins de talent et d'originalité, mais qui existe quand même dans le dessin.
Et quid d'aujourd'hui alors? Parce qu'en préparant cette émission, vous m'avez dit finalement tout a été fait. dans ce sujet de raconter la mémoire juive dans la bande dessinée. Là, on a un petit peu parlé de Johann Sfar, qui continue à publier beaucoup, qui est un peu le représentant de cette manière de faire de la bande dessinée et de ce sujet en France. Mais finalement, au vu du contexte que l'on traverse actuellement, comment vous le voyez, l'avenir de cette présence juive dans la BD ?
Bon, d'abord, ils se sont émancipés de la mémoire. C'est-à-dire que je devrais dire même que ce sont les autres qui s'occupent maintenant de la mémoire juive dans les bandes dessinées. Ce ne sont plus tellement les juifs. Il peut y avoir des histoires sur les enfants d'Issieux, sur la spoliation, pour expliquer, donc avec des auteurs plus ou moins talentueux. Vous avez aussi les Spirou avec Émile Bravo qui a fait des Spirou intéressants. Mais finalement, la question de l'interrogation sur soi dans la société ou comment on transmet le fait qu'on est juif ou des éléments de culture juive, elle est un peu finie. Par exemple, Lisa Mandel elle a remplacé Brett Eché dans le Nouvel Obs et elle fait, au moment du Covid, elle fait Mon année Covid, 365 jours, elle publiait sur Facebook, après ça sortait en page dans le Nouvel Obs, et elle publiait donc une page de son quotidien. C'était pas mal fait, mais ce n'était pas folichon tous les jours. Et pour Sfar, ce qui est intéressant chez Sfar, c'est que quand il a fait Le chat du rabbin, pourquoi ça a si bien marché, pourquoi ça continue de marcher ? Parce qu'il y avait une vraie profondeur en fait, dans ce qu'il faisait, et qui, même en passant par de la fiction un peu fantastique, un chat qui parle, qui pense comme un rabbin, etc., montrait ce qu'était d'être juif en Algérie. Et ça, c'était, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire passer ce qu'on ne voyait jamais dans les bandes dessinées, le monde séfarade. Il y a un autre auteur de bande dessinée qui a fait quelque chose de magnifique, qui s'appelle Luz, qui est l'auteur qui vit encore sous protection aujourd'hui, qui avait fait les pages, les couvertures de Charlie Hebdo. Luz a fait une illustration, une traduction en bande dessinée de Au vous frères humains d'Albert Cohen. C'est un livre absolument splendide sur Au vous frères humains. Et récemment, il a publié De filles nues, qui est l'histoire d'un tableau spolié pendant la guerre. Donc lui, il est sur ces sujets-là et il passe par des artifices, en quelque sorte, par des détours pour avoir des supports qui vont être des vecteurs de récits. Hein. Et donc là, on a une façon nouvelle d'aborder ces sujets qui ne vient pas nécessairement de gens qui sont juifs. Et puis vous avez Pascal Croci, je crois qu'il avait fait Auschwitz. Bon, je ne la conseille à personne, cette BD. Je l'ai trouvée d'abord, c'était sur ça comparait la Bosnie, les massacres en Bosnie avec les camps de concentration et les camps d'extermination. Donc je trouvais ça un peu. Je voyais pas comment il faisait le rapport. Je pense qu'on va avoir pour le futur quelque chose sur le 7 octobre, ça c'est certain. Il y a une bande dessinée qui est sortie sur l'AMIA, sur l'attentat en Argentine, organisée par les sbires des Iraniens, qui a fait exploser le centre communautaire argentin et tout le centre d'archives, etc. Ce qui fait que quand moi je faisais des recherches là-bas, vous n'aviez pas une seule archive. Tout avait brûlé dans l'attentat qui a fait de très nombreux morts et dont on n'arrive toujours pas à obtenir aujourd'hui que les coupables soient punis. Alors que tout le monde sait où ils sont. Et on a comme ça certainement l'histoire en Australie va aussi ressortir. Bon. Et puis vous avez un imaginaire israélien qui a besoin de temps en temps de bande dessinée pour s'échapper en fait de la contrainte, ou alors même pour parler de cette contrainte et arriver à se libérer de ce stress. En France, je pense qu'il y a de nombreux auteurs qui font maintenant autre chose. Ils font du fantastique, ils ont monté leur propre maison d'édition, ils ont d'autres choses qui les intéressent. Je pense qu'ils ont, c'est plus une génération, celle qui a 30 ans aujourd'hui, n'est plus tellement intéressée, sauf peut-être par le récit mémoriel familial pour une BD, mais enfin, ils ne vont pas en faire des quantités de récits. Donc, il n'y a pas de poursuite comme Will Eisner l'a fait. Voilà. Je vous invite à regarder les bandes dessinées de Will Eisner qui sont, à partir de 76, absolument époustouflantes.
Je vous laisse reprendre votre souffle. Anne-Hélène Hougue, pour donner la parole au public.
J'ai prévenu que...
Oui, mais en même temps, c'est passionnant, donc tout ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des partages, des réflexions donc, tout à l'heure, madame, on ne vous a pas entendu, mais vous faisiez référence à Goscinny, c'est ça, hein, qui a bien répondu Anne-Hélène. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des réactions Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a aussi alors il y a beaucoup de choses que vous dites qui peuvent être liées aussi à des références générationnelles. Des fois dans la salle il y en avait qui acquiesçaient quand d'autres ouvraient de grands yeux. Donc parfois il y a aussi peut-être cette histoire qui doit encore être transmise.
C'est ça la mémoire, Clémentine. C'est une question de génération.
Bien sûr.
Et c'est une question de passage. Et c'est pour ça que des expositions peuvent être intéressantes parce qu'elles permettent un dialogue entre par exemple les grands-parents et les petits-enfants. Les parents ont rarement le temps. La mémoire, c'est l'affaire des vieux, en quelque sorte. Je dirais qu'on voit ça constamment, que ce soit l'autobiographie, les mémoires de vie. Eisner, il avait tout réussi, il commençait à vieillir et il a commencé à faire ses romans graphiques. Alors là, c'est vraiment avec des histoires complètes, souvent tournant autour de sa propre histoire et des quartiers new-yorkais qu'il avait connus, de la vie dans ces quartiers, souvent axés sur le passé. Ben Katchor est un cas qui, lui, est complètement rentré dans l'imaginaire juif, le monde, c'est un génie, hein, c'est un génie absolu, mais pratiquement personne ne le comprend. Quand vous faites lire comme ça à froid quelqu'un qui n'est pas juif du Ben Katchor, les gens ils comprennent pas tous les yiddishismes, toutes les choses qui sont des images mentales qui sont liées à la vie des juifs, des shtetl, la vie des juifs yiddish à New York, le monde juif à New York, c'est un monde très particulier. Ben Katchor est essentiellement un New-Yorkais dans ses tripes. Il est un juif New-Yorkais dans ses tripes et ça constitue... les antisémites le disent souvent, ces gens-là, hein, c'est l'humour new-yorkais, on dit c'est l'humour juif. Hein, comme si les Italiens et les Polonais, etc., et les Russes n'avaient pas de... Mais enfin, c'est vrai que ceux qui l'expriment le plus dans la culture, ce sont souvent des juifs. Dans le cinéma et au théâtre, Steinberg, grand dessinateur de presse, Jules Pfeiffer, qui est un grand dessinateur de bande dessinée, qui a fait des dessins de presse, qui est auteur de théâtre, qui est un grand modèle pour Brett Eschet d'ailleurs. Pour Brett Eschet, il a été un maître. Donc on a aujourd'hui une façon de s'attaquer à toutes sortes de choses pour parler de toutes sortes de sujets de façon ouverte ou de façon déguisée. Mais je dois dire que c'est actuellement... des sujets qui sont souvent, à mon avis, des commandes, plus qu'autre chose. Ce sont des commandes d'éditeurs à des auteurs sur des sujets, parce que bon, on se dit, il faudrait parler d'Anne Frank. Bon, il faudrait parler des enfants d'Isieux. Il faudrait parler... Je ne dis pas que c'est mal, hein. N'interprétez pas ça comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'impulsion de création, le récit scénaristique, il n'est pas fait... nécessairement par quelqu'un qui a un besoin irrépressible de parler de son histoire ou d'une histoire qui l'a complètement choqué ou qui l'a marqué ou qui a marqué sa famille. On a un peu passé ce retour des mémoires. Alors après, ça devient un peu, je dirais, un genre. C'est un genre maintenant dans la bande dessinée, la mémoire.
Vous nous avez dit que prochainement vous vous occuperez et que vous impliquez dans une maison qui traitera du dessin de presse. On s'est beaucoup intéressé à la bande dessinée en préparant l'exposition. On ne présente pas de dessin de presse dans l'exposition, alors que j'ai pu en voir pratiquement quotidiennement pour ponctuer l'actualité avec ces punchlines de l'image unique, la BD et l'art séquentiel. Et ici, on est dans les journaux, dans la diffusion, sur les réseaux sociaux. Comment vous placez dans cette lecture de l'image entre la bande dessinée et maintenant le dessin de presse ?
Ben, le dessin de presse, c'est autre chose. Le dessin de presse, c'est condensé en une seule image qui doit... Il y a une compression qui se fait dans le dessin de presse et une explosion qui doit se faire à la lecture du dessin de presse, une explosion de l'humour, du sarcasme et du sens. C'est-à-dire que c'est de la satire, c'est de la charge... On parle de caricatures, là. On parle essentiellement de dessins de presse qui montraient les intérieurs des maisons du XIXe siècle. C'est pas ça hein, dont on parle. On parle vraiment de ça, de... une caricature, elle est... c'est un peu comme... Elle a la même économie qu'un tableau. C'est-à-dire qu'elle doit dire vite, fort et le plus économiquement possible, avec le moins de débordement possible. Donc c'est une épure complète qui fait d'ailleurs qu'on peut trouver la brutalité du dessin, la brutalité de l'expression et du sens. Je pense par exemple à ce que faisait Cabu, mais on peut penser à Reiser aussi. Mais ça n'a pas empêché Reiser, Cabu, Bretéché, qui faisait de la caricature en BD, qui était pas une caricaturiste, mais elle savait faire de la caricature, bien sûr. Donc il y a la polyvalence, parce que d'abord il faut bouffer, il faut vivre de son métier. Et puis il y a l'intérêt aujourd'hui d'avoir justement... des tensions différentes dans le travail, dans la création. Catherine Meurice est une grande caricaturiste. Elle a complètement arrêté, elle ne fait que de la bande dessinée maintenant. Posy Simon était une grande caricaturiste, elle a arrêté. Et on peut comme ça en décliner un certain nombre qui sont capables de vous faire des caricatures époustouflantes, mais qui n'ont plus envie de le faire, parce que c'est un exercice qui aujourd'hui... peut vous coûter la vie. Moi, je travaille sur la maison du dessin de presse. Je ne suis pas toute seule, hein. Je suis avec une équipe. On a fait le parcours permanent, puisque ce n'est pas un musée. C'est vraiment une maison du dessin de presse qui va être un lieu pour les dessinateurs et les rencontres avec le public. Et donc, on raconte l'histoire avec Bertrand Tillet, Laurent Bill et Alexandre Deveau de la BNF. On raconte l'histoire de la bande dessinée, de la caricature, axée sur la notion... non seulement d'évolution stylistique, mais de censure et de liberté. C'était essentiellement ça. En fait, tout l'enjeu de la caricature dans la société, c'est sa permissivité. C'est les limites qu'on lui pose. Donc, on n'a pas ça avec les bandes dessinées. C'est plus tellement quelque chose... Vous n'aurez plus beaucoup de bandes dessinées interdites aujourd'hui, sauf en Iran ou dans les pays dictatoriaux, en Russie. On connaît des caricaturistes, Cartooning for Peace s'en occupe, qui, par exemple, une jeune vénézuélienne, quand j'étais dans le prix des avocats du barreau allemand en Allemagne, on a donné le prix à Camilla de la Fuente, qui est une fille remarquable, qui est vénézuélienne, qui vit réfugiée au Mexique et qui avait fait des choses sur les réfugiés, les naufragés en Méditerranée. Les réfugiés qui montaient sur les bateaux et qui étaient naufragés. Elle a fait des dessins magnifiques. Donc on a comme ça certains auteurs qui sont dans des situations très difficiles, en Russie également, en Ukraine, il ne faut pas croire. Hein, on a encore, en Hongrie, on a de nombreux pays où les gens ne peuvent pas, en Indonésie par exemple, et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, vous allez avoir des gens avec des difficultés. Je ne parle même pas de la Chine, où la caricature est très appréciée, mais il faut qu'elle soit droite dans ses bottes et qu'elle suive la ligne. Donc, on est aujourd'hui, c'est l'axe de la maison du dessin de presse, c'est de dire le caricaturiste, aujourd'hui, quels sont ses moyens en Afrique, quels sont ses moyens. Et il y a l'idée aussi que la matière même, le support de la caricature, c'est de plus en plus, il n'y a plus tellement de journaux qui publient de la caricature, tout se fait sur la toile, tout se fait sur Internet, sur des blogs, sur des sites, etc. Et tout ça aussi parce que, par exemple, dans de nombreux pays, les auteurs, les artistes n'ont pas d'argent pour payer les matériaux, reproduire, imprimer, faire des journaux, tout ça. Puis il y a la question il y a l'humidité, il y a le climat, tout ça. Aujourd'hui, avec un ordinateur, vous allez dans le monde, vous faites connaître vos images dans le monde entier. Donc, et vous pouvez même, c'est le cas de la révolution arabe, le printemps arabe, beaucoup d'auteurs du Liban au Maroc, ou de la Syrie au Maroc, on va dire, l'Irak au Maroc, on fait des dessins qui étaient publiés sur Internet. Et ils échappaient un peu à la répression parce que les gouvernements n'étaient pas encore si agiles sur ces questions. Aujourd'hui, ce serait plus possible. Vous voyez bien Poutine, ce qu'il arrive à faire avec ses... Donc, en fait, aujourd'hui, un opposant un dessinateur qui aurait de l'effet sur les foules, il a pas une espérance de vie très longue.
Oui, merci pour l'intervention. Alors, juste déjà, première chose, vous me rassurez, Ben Katcher, j'ai jamais réussi à aller bien loin dans la lecture et je comprends mieux pourquoi. Voilà, ça c'est déjà une chose. Et ensuite, oui, par rapport au truc générationnel de tout à l'heure, pour ma part, la scission n'est pas générationnelle, elle est géographique. C'est-à-dire que les auteurs européens, j'ai tous les repères, les auteurs américains, beaucoup moins. Mais ce que je voulais demander, c'était en quoi Guéluron est éminemment juif. Et ensuite, il y avait une deuxième question ensuite à ce que vous disiez là. Oui, je me disais que en fait, le dessin de presse, en fait, est-ce que le fait d'être sur Internet et donc d'être ultra exposé, et en plus par les réseaux sur des circuits qui vous échappent, ne fait pas que vous êtes précisément vous-même exposé. C'est-à-dire qu'avant, quand vous faisiez un dessin de presse sur un support papier, vous vous destiniez à un lectorat qui savait ce qu'il achetait, quoi.
C'est très juste. Mais effectivement, il y a une globalisation de la circulation des images. Ceci dit, Internet, on passe très vite sur les images. Donc, c'est des gens qui vous connaissent ou qui apprécient ce que vous faites qui, en général, vont s'arrêter sur vos images. Après, il y a ceux qui cherchent les trucs qui ne vont pas. Toutes les offenses et les sacrilèges qui peuvent se déverser, toutes les offenses faites aux femmes aussi, etc. C'est-à-dire, vous avez différents types d'embuscades qui attendent le dessin de presse. Et c'est vrai. C'est vrai que il y avait un côté plus pépère, plus pépère, plus rassurant et très enrichissant tout de même, parce que vous aviez le retour des lecteurs. Les lecteurs vous écrivaient. Aujourd'hui, sur l'Internet, il y a très peu de gens qui réagissent au dessin. Ils aiment pas, ils font un like, pas like, ils écrivent des insultes. Voilà. Mais il n'y a plus du tout l'échange, ce que je dirais, qui est lié à l'art et à la culture et à l'échange d'idées sur le contenu du dessin. Il n'y a plus tellement de grandes discussions. Moi, je suis beaucoup sur Facebook et sur ces... Pas Twitter ni TikTok, hein, ça, diamant près, ni X d'ailleurs, je ne supporte pas ces trucs-là. Mais par contre, Facebook, je suis une has-been du réseau social. Donc Facebook reste quand même un lieu de très grande diffusion d'informations et on a régulièrement des artistes qui publient sur Facebook. Et il y a Kishka, par exemple, qui vit en Israël, qui fait beaucoup de choses sur Gaza, la Palestine, Israël, etc., sur Netanyahou. Ruth Modan, de temps en temps, fait des dessins. On a comme ça quelques dessinateurs. Et puis, vous avez beaucoup de dessinateurs, si vous allez les chercher, africains, qui publient sur des réseaux qui sont plus destinés aux jeunes. Et puis, culturellement, à des sphères culturelles, à des zones culturelles qui ont leurs propres habitudes de consultation. Même s'il y a globalisation, c'est-à-dire qu'il y a une accessibilité globale au dessin, mais en réalité, les gens vont toujours voir ce qu'ils connaissent ou ce qui est dans leur langue, etc. Par exemple, je ne reçois pas de caricatures en russe, ou en polonais, ou en ukrainien. Mais si j'allais chercher les sites, si je m'abonnais, si je suivais les sites, je les aurais. Mais disons que dans un premier moment, même avec l'algorithme, ce n'est pas ce qui m'est proposé.
Votre première question, c'était en quoi Guéluron est-il juif ? C'était ça.
Alors, je vais essayer de faire court parce que c'est... Guéluron, c'est Gottlieb. C'est Gottlieb avec tout le pessimisme angoissé de Gottlieb, sa dépression. Et c'est aussi Pierre Dac. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans Guéluron qui est complètement lié à l'humour noir, au black humor, et qui est en même temps un humour yiddish, qui est en même temps, on a les deux, c'est-à-dire qu'on a les Monty Python, on a les Marx Brothers, on a les deux dans ces... Et Guéluron, c'est le héros à la mine triste, hein, c'est un peu le héros à la triste mine. J'ai vu qu'il y avait une expo sur Don Quichotte, là, en passant... je ne sais plus où, à Paris ou à Lyon, je ne sais plus. C'est formidable parce que Don Quichotte, c'est un grand personnage, mais le sire à la triste mine, hein, c'est le chevalier à la triste mine. Et Guéluron, c'est celui qui ne croit pas qu'il soit possible. Par exemple, à un moment, il est avec Jujube dans une histoire qui était publiée dans Vaillant, et elle lui dit, tu dois quand même, je lui dis, tu dois quand même sourire un peu. Alors il se met du sparadrap, comme ça, pour se coller le sourire. Et puis, un bout du sparadrap tombe. Et c'est là que Jujube éclate de rire. C'est-à-dire qu'en fait, c'était ce retour du naturel, ce retour de l'essence même du personnage. Vous n'arrivez pas à lutter contre vous-même. Vous ne pouvez pas, à un moment, échapper à vous. Et ça correspond aussi à une scène de L'homme qui rit de Victor Hugo, qui avait beaucoup marqué... Gottlieb, qui raconte ça à Claire Bretéché dans un film, un documentaire, et il lui dit il doit communiquer avec les lords, l'homme qui rit, hein, il est riche, bon, maintenant il est à la chambre des lords et tout ça, il doit communiquer. Et puis il a appris à bien contracter son visage pour avoir l'air sérieux en dépit de ses cicatrices. Et puis à un moment, son effort est tel, il y a quelqu'un qui lui lance une remarque, et puis sous l'effet de surprise, c'est tout son visage s'affaisse, toute la chambre des lords éclate de rire, et lui, du coup, il ne peut plus faire passer ce qu'il voulait faire passer. C'est-à-dire, c'est cette désespérance, en fait, que vous n'arrivez pas à contrôler votre vie, vous n'arrivez pas à contrôler les autres, vous êtes toujours... C'est très, très... très, très vous ne pouvez que rire, parce qu'en définitive, quoi que vous fassiez... Vous n'aurez pas le dernier mot, c'est ce que je disais, c'est qu'à la fin, c'est l'ange de la mort qui vient et qui récupère. C'est les vautours qui surveillent tout le monde, en quelque sorte. Et les vautours, vous ne pouvez pas dire quand est-ce qu'ils vont arriver. Mais c'est ça, c'est cette pensée qu'avait Pierre Dac, et d'ailleurs Goscinny aussi, l'air de rien, sous ses rires et tout, si vous regardez bien, il a une combinaison des mots, une façon de jongler avec le vocabulaire. Il invente complètement des mots, parce que dans le fond, faire rire, c'est la dernière chose qui reste. Quand on a été très dépressif, il avait l'air comme ça très gai et tout, mais en fait, Goscinny, c'était quelqu'un qui s'arrachait les cheveux au moindre, qui doutait beaucoup de tas de choses, même s'il ne le montrait pas. Et voilà, on est sur. C'est une forme de pénibilité existentielle, je dirais, au rire. C'est-à-dire que le rire ne peut venir que du sentiment d'impuissance. Bon, c'est ce que dit Bergson aussi dans son livre sur le rire, etc. Vous tombez, vous voyez tomber, moi je sais que je me suis fichue souvent de moi parce que je tombe par terre et je me vois tomber, j'arrive pas à me retenir. Et je me vois tomber, c'est un film, je me vois tomber, j'arrive pas, je tombe. Et je m'étale en pleine rue. Enfin, c'est extraordinaire, ça m'est arrivé un certain nombre de fois à une époque où j'étais un peu distraite et je payais tous les pavés qu'il y avait dans les rues. Et cette espèce de vous vous voyez tomber. Et le fait de se voir tomber et vous ne pouvez pas vous retenir, quand vous repensez à la scène, ça vous fait rire. Parce que vous dites, mais... Vous savez que vous avez eu l'air ridicule, qu'en fait, vous êtes dans le ridicule. Voilà.
Une dernière toute petite question avant de clore cette émission. Est-ce que vous dessinez ?
Pas du tout. Je suis archi nulle en dessin. Nullissime. Autant je peux dessiner, je peux faire un peu d'architecture quand je veux faire des scénos et tout, que je veux décrire certains dispositifs. Je peux grossièrement arriver à montrer au scénographe ce que je veux, mais en réalité, je suis nulle, archi nulle en dessin.
On vous croit alors ?
Ouais.
Cette troisième émission Conversation radiophonique au musée dauphinois à Grenoble touche à sa fin. Elle a été enregistrée par Radio Campus Grenoble. Merci Louis à la technique, un grand merci. Une émission donc à réécouter en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Merci à vous Anne-Hélène Houg d'avoir fait le déplacement depuis Angoulême, on ne l'a pas dit mais vous venez de loin. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci à tout le monde.
Et rendez-vous le 12 mars prochain pour la 4e conversation radiophonique qui portera sur l'approche philosophique de la judéité. L'exposition « Une histoire juive de 1000 ans, de liens entre Rhône et Alpes » est à visiter au musée dauphinois, un musée du département de l'Isère.